Bonjour, bonjour. Pour introduire ce passage et cette prédication, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années au sein des groupes bibliques universitaires avec une étudiante que je connaissais très très bien, que je voyais à peu près toutes les semaines et qui était plutôt d'un caractère assez détendu, voire très détendu, voire très nonchalant. Une personne qui, quand on lui donnait des responsabilités, s'y prenait à la dernière minute, qui n'avait pas l'air d'être très atteinte par tout ce qui se passait autour d'elle. Quelqu'un de très léger, vous voyez, comme ça. Et donc, toutes les semaines, elle était comme ça. Et bon, voilà, c'était agréable parce que ce genre de personne met une bonne ambiance dans un groupe. Jean, je pense à un truc, si tu veux, si tu entends mal, j'ai un texte pour toi. Tu entends bien? C'est bon? Cool. Et cette personne que je voyais toutes les semaines, un jour on a organisé un week-end, comme ça se fait assez souvent dans les GBU, on organise des week-ends régionaux. Et dans les week-ends régionaux, on participe traditionnellement le dimanche matin au culte dans une église, voire dans plusieurs églises. Et donc on se répartit les différentes églises de la ville. Et là, je suis allé dans la même église que cette jeune fille, au caractère si léger et si nonchalant. Et là, j'ai vu une autre personne. Une personne s'est mise à prier de manière complètement inspirée. Une personne qui priait presque avec des sanglots dans la voix, qui était tellement consacré au Seigneur et tout ça. Je me rappelle encore, j'étais à côté d'elle et elle se levait pour prier. Et je l'ai regardée et je me suis dit, tiens, la personne que je connais au quotidien, c'est pas du tout la personne qui vient de prier en ce moment. Là, elle est dans un truc complètement très très spirituel, genre, oh Seigneur, nous sommes pécheurs, oh Seigneur, nous voulons te servir. Alors que d'habitude, franchement, on a l'impression qu'elles s'en fichent. Il y a parfois un décalage, un gros décalage parfois, entre ce que nous sommes au quotidien, j'aimerais même ajouter entre ce que nous sommes pour de vrai, et l'image que nous donnons devant les autres, l'image que nous donnons notamment lors du culte. Et ce passage traite de ce problème, de ce sujet, de la différence d'image que nous donnons, selon que nous sommes tout seuls ou que nous sommes en public. Et donc c'est Jésus qui nous raconte cette histoire, qui n'est pas une histoire finalement, qui est une série d'exhortations. C'est le premier récit, c'est la première exhortation de Jésus dans l'évangile de Matthieu, c'est ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Et nous allons lire donc Matthieu 6, les 18 premiers versets de Matthieu 6. Donc c'est Jésus qui parle et il parle à ses disciples. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les gens pour être vu par eux. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais un acte de compassion, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme les hypocrites le font dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les gens. Amen, je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Mais quand tu fais un acte de compassion, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton acte de compassion se fasse dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des grandes rues pour se montrer aux gens. Amen, je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les non-juifs qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne faites pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui est dans les cieux, que ton nom soit reconnu pour sacré, que ton règne vienne, que ta volonté advienne sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain pour ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous l'avons fait pour nos débiteurs. Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. Si vous pardonnez aux gens leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera, à vous aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux gens, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre, comme les hypocrites. Ils arborent un visage défait pour montrer aux gens qu'ils jeûnent. Amen, je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux gens, mais à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit là dans le secret te le rendra. Jusqu'ici, notre lecture de la parole de Dieu. Quand j'ai lu le passage, je ne sais pas si vous avez retenu, si vous avez remarqué qu'il y a des éléments, des expressions que Jésus répète à chaque fois. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des choses qui se répètent? Oui? Non? Oui? Ah, Anne-Marie dit oui. Qu'est-ce que tu as remarqué? Le mot hypocrite, ouais. Il y a le mot hypocrite qui revient. Est-ce que vous avez remarqué d'autres choses? Et, exactement. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Voici un petit tableau qui peut nous aider à justement remarquer les choses. Un petit tableau qui nous permet d'observer le texte. Et donc, vous avez le verset, vous avez le sujet qui est abordé, vous avez le problème aussi qui est abordé, dans quel but, ce qu'il faut faire et pourquoi. Donc, dans la première exhortation, le sujet c'est faire le bien. Et notamment faire le bien en donnant de l'argent. Le problème, ce serait de faire le bien pour être vu et pour être glorifié. Ce qui est finalement de l'hypocrisie de la part, d'après Jésus. Et alors, dans quel but font-ils ce bien pour être vu et glorifié? Dans quel but les hypocrites font-ils cela? Eh bien, pour avoir une récompense de la part des hommes. Le fait d'être vu et d'être glorifié, c'est une récompense immédiate pour ceux qui accomplissent ce bien visible. Mais Jésus oppose cette hypocrisie à la charité secrète. Faire le bien dans le secret. Pourquoi? Parce que ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voilà. Il y a une opposition entre la récompense visible qui vient des hommes, la glorification des hommes, et une gratification probablement plus lointaine de la part de Dieu qui voit dans le secret. Le deuxième sujet qui est abordé dans les versets 5 et 6, c'est la prière. La prière, une prière qui est pour se montrer. C'est bien ça le problème, c'est encore le problème de l'hypocrisie. Les Juifs priaient debout. Priaient debout en levant les mains au ciel. Et en fait, quand vous faites ça, vous pouvez être tenté d'utiliser tout un stratagème pour faire de la comédie, faire du cinéma. Et avoir une sorte de course à l'échalote pour avoir la prière la plus impressionnante du monde. Dans quel but les hypocrites font-ils cela? Là encore, pour avoir une récompense immédiate de la part des hommes. Ils tiennent là leur récompense. Ce qu'il faut faire d'après Jésus, c'est le contraire. Alors il ne dit pas qu'il ne faut pas prier en public, mais il dit qu'un truc qui est vraiment très très bien, c'est d'entrer dans la pièce la plus retirée de la maison, de fermer la porte et de prier le Père qui seul peut entendre cette prière. Et donc la raison pour laquelle il faut faire ça, c'est bien entendu ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Là encore, opposition entre une gratification immédiate de la part des hommes et juste le fait d'être en relation, une relation invisible, une relation secrète avec le Père en direct. Troisième sujet, c'est encore la prière. Et là, Jésus aborde le problème de la multiplication des paroles. La prière qu'on pourrait qualifier de prière liste du Père Noël, ou la prière quelle course il faut acheter. Donc une prière où on demande énormément de choses à Dieu en employant des expressions extrêmement compliquées, alambiquées, pour que Dieu, finalement, à force de nous entendre, eh bien, exaucera la prière. Et donc voilà, c'est bien ça le but. Le but, c'est d'être exaucé par Dieu, de faire plein d'efforts pour être exaucé par Dieu. Et la solution à cela, pour Jésus, c'est le fameux Notre Père. Il apprend une prière qui est le Notre Père. Et pourquoi ? Et là encore, pourquoi est-ce que il faut éviter de saouler Dieu avec plein de mots et plein de demandes ? Pourquoi ? Parce que votre Père, et là pour le coup, il y a un petit changement dans l'expression, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Votre Père sait déjà. Donc c'est pas la peine de répéter plein de fois. Et enfin, quatrième petit enseignement de ce passage, ça correspond au jeûne. Le jeûne est quelque chose qui se faisait depuis des lustres en Israël. C'est une manière de s'abstenir de manger, par définition, pour justement se consacrer à Dieu, se consacrer à la prière, se consacrer à quelque chose. C'est le fait de dire « je sacrifie mon repas pour Dieu ». Voilà la signification du jeûne. Et par contre, les pharisiens, ou en tout cas les hypocrites, le faisaient avec un visage défait pour montrer à tout le monde qu'ils jeûnaient. Par définition, le jeûne ne se voit pas, puisque en fait, si genre il est 14h, vous avez jeûné, et en fait vous êtes en train de travailler, personne n'a force, enfin il y a pas mal de personnes qui n'ont pas vu que vous jeûniez, donc en fait le jeûne est invisible. Par contre, si vous faites la personne fatiguée, la personne qui n'en peut plus, et si possible qui dit « oh là là, j'ai pas mangé depuis tellement longtemps », là tout le monde comprend que vous jeûnez, et là vous paraissez très très spirituel, et vous tenez votre récompense, puisque tout le monde comprend que vous êtes en train de jeûner, et donc que vous êtes quelqu'un de très très spirituel, très près de Dieu, et donc tout le monde vous admire. Vous tenez là votre récompense. Qu'est-ce que Jésus enseigne ? Il ne faut pas montrer qu'on jeûne. Il ne faut pas montrer qu'on jeûne, c'est même le contraire. Il faut carrément se parfumer la tête, il faut sourire, il faut faire comme si on avait pris, finalement, un bon repas, comme si tout allait bien, comme si tout était normal. Pourquoi ? Je vous le donne en mille. Parce que ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Encore une opposition entre les hommes, le regard des hommes et le regard de Dieu. Donc vous voyez, le but c'est d'être vu. Le but c'est d'être vu à chaque fois, vu par les autres en faisant le bien bruyamment, être vu par les autres en priant de manière très très visible, être vu par Dieu en multipliant les paroles, être vu par les autres en jeûnant péniblement. Attitude hypocrite qui va être vraiment pleinement critiquée par Jésus au chapitre 23 du même évangile de Matthieu lors de son célèbre réquisitoire contre les pharisiens hypocrites. Jésus déteste la différence entre la vraie attitude et une attitude publique pour être glorifié par les hommes. Jésus déteste ça. Qu'est-ce qui pose problème ? Ce qui pose problème là-dedans, c'est une attitude narcissique. Être admiré par tous, voire obéi de tous. Le problème là-dedans, c'est de vouloir toute la lumière sur soi. Être le centre du monde. Voilà le premier problème qui est abordé par Jésus. On veut prendre le contrôle. On veut que tout le monde nous regarde. Deuxième problème, et finalement, peut-être que c'est ça le cœur du sujet, c'est le manque de confiance en soi, voire la haine de soi. Le XXe siècle a été le siècle de la psychanalyse, de la psychologie, et on sait reconnaître tous les mécanismes de compensation. La plupart du temps, on veut avoir de la valeur dans le regard des autres. Et pourquoi est-ce qu'on veut avoir de la valeur dans le regard des autres? Et pourquoi est-ce qu'on fait des fois plein d'efforts pour avoir beaucoup de valeur dans le regard des autres? Eh bien, c'est parce qu'on n'est pas sûr de soi. Voire parce qu'on ne s'aime pas. Voire parce qu'on se déteste. Et on se déteste tellement qu'on, du coup, on essaie de surenchérir pour paraître quelqu'un de merveilleux, de super. Quelqu'un au-dessus des autres. Phénomène de compensation. Tous ces efforts traduisent une abominable anxiété devant les autres et devant Dieu. Et la plupart du temps, c'est pour ça qu'on veut être regardé. Parce qu'on est tellement anxieux, parce qu'on veut tellement être aimé, parce qu'on veut tellement être admiré, parce qu'on veut tellement exister. Troisième problème, on se fait Dieu. En étant narcissique, en voulant être le centre du monde, on se fait Dieu. Et nous revenons ici à l'essence même du péché. Être le centre du monde, être la référence pour tout le monde, être adoré de tout le monde. Comme pour Adam et Ève, la relation avec Dieu n'est pas suffisante. La dépendance est inacceptable, la fragilité est inacceptable. On veut être au-dessus de la mêlée, et être au-dessus de la mêlée, ça permet d'acheter son indépendance, même si finalement on dépend de la mêlée. Mais on croit acheter une certaine indépendance. Voilà ce qui pose un problème pour Jésus. Et finalement, la solution pour Jésus, c'est que le Père, lui, voit tout. Et c'est bien ça, c'est là où l'hypocrisie est assez ridicule. L'hypocrisie qui consiste à porter un masque devant tout le monde, c'est que Dieu voit le masque. C'est ridicule de porter une carapace parce que Dieu voit derrière la carapace. Il brise le masque, il brise la carapace. Ce que dit Jésus finalement, c'est que les actes religieux sont relationnels. Sont relationnels avec le Père. Avec le Père qui voit les vraies motivations. Et finalement, en fait, tout ce qu'on fait, ça doit être pour lui. C'est la relation avec le Père qui importe. La récompense à viser doit être celle du Père, pas celle des autres. La piété doit être centrée sur Dieu, pas sur soi, pas sur son nombril. Un enfant de Dieu fait les choses pour son Père, à son service, pour son approbation. Car la chose absolument essentielle pour nous doit être la communion avec notre Père. C'est la raison d'être de tout le récit biblique, la communion. Comment retrouver cette communion avec le Père dont jouissaient Adam et Ève avant la chute? C'est ça le centre du récit biblique. Et du coup, la solution pour Jésus, la solution pour retrouver, pour se décentrer de soi-même et se centrer vers le Père, c'est une prière anti-narcissique. Une prière anti-narcissique centrée sur la gloire du Père. Centrée sur le royaume du Père et la relation aux autres. C'est le Notre Père. Le Notre Père n'est pas une prière à réciter bêtement. C'est une prière qui tend vers le royaume de Dieu, qui nous décentre de notre nombril pour nous centrer sur Dieu et sur les autres. Le pardon est vraiment au centre du Notre Père. Et finalement, le seul élément qu'on pourrait qualifier d'égoïste dans le Notre Père, c'est donne-nous notre pain quotidien. Et encore, ce pain quotidien ne dépend pas de la quantité de travail effectué dans le Notre Père. Le Notre Père ne dit pas « Ah là, Seigneur, j'ai beaucoup travaillé, que je reçoive le salaire qui correspond à ma quantité de travail. » Non, c'est « Donne-nous notre pain. » Voilà. Le pain dépend du Père, pas du travail qu'on a effectué. Si on concentre toute son attention pour que le règne de Dieu vienne, pour que sa volonté soit faite, eh bien, on fait abstraction de tout le reste. Et notamment de notre image, notamment de notre réputation. Parce qu'au final, tout ce qui compte, c'est son royaume. C'est son royaume. C'est plus nous. C'est plus les autres. Ou si c'est les autres, c'est pour les servir. Comment est-ce que le règne vient, le règne de Dieu vient sur la terre, dans notre Père ? Eh bien, c'est en entretenant des relations de pardon les uns avec les autres. Cet enseignement de Jésus est très libérateur. Cet enseignement de Jésus est très très bon pour nous. Quand on fait les choses pour Dieu, quand on fait les choses avec Dieu, on est plus serein à propos de sa valeur, de notre valeur. Parce qu'on jouit d'une relation merveilleuse avec notre Père qui porte un regard bienveillant sur nous, un regard qui favorise notre croissance. On n'a pas à se demander « qu'est-ce que Dieu va penser de moi ?» En fait, on est sûr qu'il porte un regard bienveillant sur nous parce qu'il a donné son Fils à notre place, parce que nous sommes pardonnés par lui, parce qu'il nous aime inconditionnellement. Nous pouvons être libérés de l'anxiété de ne pas être aimés. Nous pouvons être libérés de l'anxiété de ne pas en faire assez. Nous pouvons être libérés de la pression et même des choses négatives qu'on nous dit depuis notre enfance. S'il y a au moins une personne qui porte un regard positif sur nous, un regard qui nous fait croître, c'est la personne la plus importante de l'univers. Et ça, ça doit nous rassurer, ça doit nous libérer. Nous pouvons tenter des nouvelles choses, sans crainte. Nous pouvons échapper aux standards. Nous pouvons échapper aux traditions. Nous pouvons faire selon notre personnalité. Nous pouvons faire selon nos dons que Dieu nous a donnés. Parce que ce sera bien dirigé, ce sera pour le royaume de Dieu. Et en plus, ça ne déterminera pas notre valeur. En cas de succès comme en cas d'échec, le Père nous aime, continuera de nous aimer inconditionnellement. Ne dépendre que du regard du Père, c'est libérateur. Deuxième chose, c'est que quand on vit avec Dieu, on n'a pas à porter les choses. On n'a pas à trimer pour être aimé, mais à tout lui remettre. Nous sommes là pour travailler à son service, et lui, eh bien, il prend soin de nous. À la suite de ce passage, Jésus aborde les possessions matérielles. Et justement les inquiétudes que les possessions matérielles suscitent. Les possessions matérielles, soit vous avez peur de vous les faire voler, soit vous avez peur d'en manquer et de jamais en avoir assez. Et Jésus n'arrête pas de dire dans le passage d'après, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Et finalement, c'est dans la droite lignée de notre passage. Si nous nous faisons Dieu, si tout est sur nos épaules, eh bien tout dépend de nous. Et il y a une pression énorme qui s'exerce sur nous. Le résultat, c'est la peur que tout s'arrête, la peur de manquer, la peur de ne pas en faire assez. Alors que tout remettre entre les mains du Père, ne dépendre que de lui, c'est là encore extrêmement libérateur. Mais bien sûr, c'est libérateur et difficile. Car la tendance humaine, c'est de faire les choses par soi-même. Ça demande de la foi, de se dire que, eh bien, en fait, rien ne dépend de nous, tout est entre ses mains. Il y a beaucoup, beaucoup de religions hein, qui peuvent dire aux chrétiens, vous, c'est très facile, en fait, vous mettez votre foi en Jésus et vous êtes sauvés, vous n'avez rien à faire en plus. Beaucoup, beaucoup de religions, moi, en tout cas, je rencontre pas mal de personnes qui disent ça. Ah, vous, c'est trop facile. Et je réponds toujours la même chose. Si c'est trop facile, fais-le. Vas-y. Dis-toi que rien ne dépend de toi, rien ne dépend de tes œuvres, rien ne dépend de tes bonnes actions. Mais juste ta foi en Dieu, même si tu ne crois pas en Jésus, mais juste ta foi en Dieu, et estime que ça, ça va déterminer toute ton identité et toute ton existence. La plupart du temps, quand je dis ça, la personne se dit « Ah ouais, c'est peut-être pas si facile que ça. » Finalement, n'être obsédé que par le royaume de Dieu et ne s'en remettre qu'à lui, eh bien, c'est une manière d'imiter Jésus. Et on en revient presque inévitablement à ce passage de l'apôtre Paul dans l'épître aux Philippiens qui dit « Tendez à vivre en accord les uns avec les autres et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. » Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition de serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre. Et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus a appliqué tous les enseignements qu'il a enseignés à ses disciples. Il l'a vécu jusque sur la croix. Il s'est oublié. Il a oublié le regard des autres, le regard de son propre peuple qui l'insultait, le regard de son propre peuple qui l'a tué pour se concentrer sur le regard de son Père et sur la mission que son Père lui avait donnée. Alors j'ai trois applications. Ce passage pose la question de nos motivations. Quand nous accomplissons de bonnes œuvres, car ce que Jésus dit, c'est que nous pouvons faire les choses, nous pouvons faire des choses admirables, bonnes dans l'absolu, mais pour des raisons très contestables. Le cœur humain étant tortueux plus que toute autre chose, nous pouvons aider les autres afin d'avoir une emprise sur eux. Nous pouvons obéir à Dieu afin qu'il soit obligé de nous bénir. Nous pouvons même être volontairement discrets, en retrait, afin d'être vus. C'est ce que parfois font les enfants et c'est ce que font certains adultes qui ne sont pas tout à fait sortis de l'enfance. Une manière de bouder. Bouder pour être vu. Partir pour être encore plus présent. Le cœur humain est tortueux plus que toute autre chose. Et il faut vraiment que nous évaluions nos motivations réelles quand nous faisons quelque chose. La deuxième application, c'est la question du regard. Quel regard compte pour vous? Quel regard compte pour nous? La bonne réponse, c'est bien sûr celui de Dieu. Vous avez bien compris. Ou bien celui des frères et sœurs qui contribuent à me faire progresser. Ça aussi, c'est une bonne réponse. Pourtant, nous devons admettre que nous faisons aussi les choses en fonction de ce que les autres pensent, de ce que les autres, vivants ou morts, pourraient penser. Et j'ai plusieurs exemples typiques de personnes qui, par exemple, sont d'origine vaguement catholique, même s'ils ils vont plus à une messe catholique depuis des années, mais vaguement catholique, qui nous ont dit « Ah, j'aimerais bien venir au culte, mais j'ai peur de ma réputation, auprès de tous les autres. Qu'est-ce que vont dire les autres si je deviens protestant ? Comme si finalement venir à un culte protestant, ça faisait de quelqu'un un protestant. On a même mieux des personnes qui ont dit « Je peux pas venir au culte parce que ce serait trahir mes parents. » Alors que les parents sont décédés depuis belle lurette. Mais ce serait trahir le regard des parents, l'éducation des parents. On peut vraiment vivre dans la dépendance d'une éducation, d'une culture, dans la dépendance du regard des autres. Et ça, ça peut nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. On peut s'abstenir de faire de très bonnes choses utiles pour le royaume par peur des commentaires ou par peur de la honte en cas d'échec. Pourtant, Dieu apprécie qu'on lui obéisse. Il se réjouit quand on lui obéit, même quand on lui obéit et qu'on se trompe ou quand on subit des échecs. Parce qu'au moins, on a essayé. La peur de la honte est aussi narcissique que la recherche des honneurs décrite par Jésus. D'ailleurs, Jésus en parlera plus tard dans le même évangile. « Celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai moi aussi honte de lui devant mon Père. » Avoir peur de la honte, c'est aussi grave que d'être obsédé par les honneurs. Enfin, dernière application, et la clé finalement, la solution, c'est l'obéissance à Jésus. Finalement, nous devons servir Jésus parce que c'est Jésus. Un point, c'est tout. Un disciple obéit au maître. Un disciple suit les pas de son maître. Et puis, c'est tout. Il n'y a pas d'autre explication, il n'y a pas d'autre motivation. La raison d'être, l'identité d'un disciple, c'est de faire ce que fait son maître. Nous n'avons rien à rechercher, nous n'avons rien à espérer, nous n'avons rien à craindre. Nous devons simplement obéir à Jésus. Et finalement, ainsi, nous n'agirons pas pour Jésus en fonction du regard des autres, mais nous agirons pour les autres en fonction du regard de Jésus. Et ça, c'est la clé. Ne pas agir pour Jésus en fonction du regard des autres, mais agir pour les autres en fonction du regard de Jésus. Amen. Je vous invite pour...